Le petit coup de sifflet nous signale que vous avez un invité.
Fier de ceux qui font bouger le Nord-Pas-de-Calais chaque jour, on vous propose une rencontre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un écrivain de chez nous, Lillois. Il s'appelle Éric Grégoire. Bonjour.
Bonjour Agnès.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci.
La semaine dernière, à cette même place, c'était Franck Tillier. Qui était ça vous fait quoi d'être assis à
j'essaye de m'imprégner
Franck.
Du siège, j'essaye de ça pénètre.
Pas lavé. Ouais.
Non mais justement.
Mieux. Meurs vieux lâche, c'était parce que je faisais un truc entre meurs et vieux. Meurs vieux lâche, c'est le titre de votre nouveau roman.
Oui.
Ça a le mérite de faire l'effet d'une gifle quand même. Vous avez choisi ce titre pour ça.
Je voulais un titre accrocheur et je voulais quelque chose qui reprenne un texte qui est connu, qui est l'horloge de Charles Baudelaire. Et c'est l'avant-dernière strophe, c'est « Meurs vieux lâche, il est trop tard ». Et effectivement, je voulais aussi accrocher un petit peu les gens. Et je le vois en salon parce que quand les gens regardent le titre, il y a parfois des regards un peu effrayés ou ce genre de choses.
On se dit, il va nous malmener, nous lecteurs.
Le prochain s'appellera « Viens faire un câlin ».
Oui, c'est ça. Douceur et bienveillance, un truc comme ça, quoi. Vieux lâche, derrière ça, c'est l'histoire de Roger Salengro. Alors, j'ai fait le test auprès de mes collègues qui ont parlé d'une salle de spectacle qui pouvait s'appeler Roger Salengro, d'un nom de rue. Finalement, on a oublié le parcours incroyable de cet homme politique, marié avec le 36, le Front Populaire et tout ça.
Complètement. C'est un nom qui est hyper connu. Mais où plus personne, enfin plus grand monde ne sait exactement qui il était. Et c'est vrai, quand on refait après un peu son parcours en rappelant qu'il a été maire de Lille, qu'il a été ministre du Front Populaire, que les congés payés font partie des accords Matignon qu'il a négociés, ça rallume des ampoules, ça réveille des choses. Mais sinon, c'est un hôpital, une rue, un boulevard. C'est grosso modo 99% des gens, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il est mort et ça fait un petit moment qu'on l'a oublié. Ouais.
Alors, est-ce que c'est lié aussi à sa fin? Qu'on a eu envie d'oublier ou d'enterrer ce parcours terrible dont il a été la victime?
C'est peut-être effectivement ça. Autant la fin a été terrible, puisqu'il y a eu 1 million de Lillois dans les rues au moment de son enterrement. Il s'est suicidé au gaz en novembre 36. On a l'impression que la fin a été tellement terrible que l'oubli a été volontaire.
Ouais. Enfin, a été à la hauteur de la tristesse et de l'émoi que les gens ont pu ressentir au moment de l'annonce de sa mort.
C'est fou. Et puis tous ces gens-là ne sont plus là. C'est 36, là, on commence à plus avoir grand monde qui a vécu cette époque-là, même petit.
Alors, on le disait, homme politique français, très important. Et donc, quand il arrive au gouvernement, à ce gouvernement de 36, avec vraiment l'impression qu'on est dans un monde progressiste où on va répondre à des rêves et on va les rendre concrets, réels, c'était donc un homme à abattre, forcément.
C'était un gouvernement à abattre et un homme à abattre. Et en fait, ils ont utilisé... Il y a des fois, je pense que Salengro était le maillon faible du Front Populaire. Non pas parce que il était plus discutable que les autres, mais il y avait une prise qui était sa pseudo-désertion de 1915. Et il a fait une énorme erreur, c'est qu'au lieu de faire comme les autres, c'est-à-dire quand il y avait des attaques, de ne pas répondre, lui, il a répondu. Et tout le monde lui a dit ne répond pas.
Il était tellement indigné.
Tout à fait. Il voulait que la vérité éclate. Il avait été accusé de désertion, il avait été blanchi, totalement innocenté. Les journaux royalistes comme Gringoire ou l'Action française, ce genre de choses, ont ressorti ça. Et au lieu de laisser filer et que 10 jours après, ça aurait été terminé, il a répondu à chaque fois. Et à chaque fois qu'il a répondu, il a remis un sou dans la machine. Et ça, il pensait que ça allait éteindre le truc, alors que ça a complètement allumé c'est ça qui a rallumé le brasier.
C'était le cercle vicieux, en fait.
Tout à fait.
Il répondait aux attaques et les attaques devenaient encore plus terribles
encore plus
derrière.
Fortes. Et tout le Front Populaire de l'époque, qui était en train de faire énormément de réformes en même temps, les congés payés, l'interdiction du travail des enfants, les droits syndicaux, effectivement, ils se sont pris tous les réactionnaires un peu sur le poil. Et ça a vraiment été un déchaînement. Ça, en gros, était peut-être un peu effectivement le plus fragile, et on sait que ça s'est fini par son suicide.
Meurs vieux lâche, si vous voulez retrouver le parcours de Roger Salengro, écrit par Éric Grégoire, un écrivain de chez nous, un écrivain lillois que l'on retrouve dans quelques instants dans Fier de.
Juste après Patrick Fiori avec Le Chant est libre, Agnès. On fait comme ça ?
On fait comme ça.
Et la carte du club, on vous l'offrira dans 5 minutes, en gros.
Il y a une ombre sur le tableau. Pourtant le soleil brille bien haut, tout est cool et tout est beau. C'est l'été sur la terrasse, oui mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons. Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés, grand sourire, tout le monde était content, faut croire. Il était tellement tranquille, qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour il ait dû renoncer à chanter le chant. Pas une ombre sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. L'ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule au-dessus des nuages. Raide du monde, on a beau dire, parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. Le prix de l'infortune, que parfois les rêves importunent, quand elle fredonne dans les couloirs. Elle était tellement sereine, qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter le chant. Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien haut. Tout est cool et tout est beau.
Patrick Fiori sur France Bleu, il est 10h46, deuxième partie tout de suite. Agnès est votre invitée ce matin.
Fière de ceux qui font bouger le Nord-Pas-de-Calais avec l'écrivain Éric Grégoire, Meurt Violage. C'est l'actualité d'aujourd'hui pour vous. C'est un roman, certes, mais qui relate la vie de Roger Salengro, qui lui a bien existé. Homme politique français très important, maire de Lille au gouvernement de 36, un humaniste, un homme qui voulait faire progresser l'humanité. Et alors, il y en a un deuxième aussi que vous avez décidé de raconter. C'est donc juste avant, le roman d'avant, c'est le docteur Guillotin, un humaniste méconnu.
Oui.
Alors, quand on dit Guillotin, effectivement, on pense à la guillotine, à la Révolution française.
Ouais. Et pourtant, il ne l'a pas inventé.
Et en plus, il a trouvé que la guillotine était un progrès, finalement, dans l'histoire des exécutions en France.
Tout à fait. Joseph Guillotin était médecin, médecin des pauvres. Enfin, il avait en plus de son côté médecin, il avait un côté humaniste et bienfaiteur des pauvres. Et au moment de la Révolution, il est député de la Constituante. Et il va présenter un texte de loi qui dit que toute personne condamnée à la peine capitale aura la tête tranchée par un simple mécanisme. Auparavant, le pauvre était roué de coups, pendu,
brûlé,
enfin, c'était assez joyeux. Les nobles avaient la tête tranchée, et son idée, puisque le temps n'était pas venu de l'abolition de la peine de mort...
Car il était...
Il était abolitionniste, hein, ouais, tout comme Robespierre. L'idée, comme c'était pas encore le temps, c'était de dire, bon bah, on va enlever la souffrance, on va... la peine deviendra juste une privation de la vie, ce sera plus une torture.
C'était propre, quoi.
C'était propre.
Et il c'était presque sans douleur, on
c'était
va dire.
Un léger souffle sur le cou, on prétendait.
En tout cas, donc, par rapport à ce qui se passait avant, ça devenait sans douleur, indolore.
Ah, complètement. Et dans ses lois, il y avait ça, mais il y avait aussi le fait qu'on ne pouvait plus accuser un fils des malversations de son père ou genre.
On n'héritait pas de.
De la peine, tout à fait. Ce qui a été plus développé, je crois, après par Napoléon. Et donc le Guillotin a fait ça. Et il a fait passer sa loi avec difficulté. Et après, il s'est un peu retiré de la députation. Il n'était plus député. Mais on est venu le rechercher en 92 parce qu'il y avait des condamnés qui ont plissé les cellules et on ne savait pas comment les exécuter. Et donc, il a un peu aidé en ressortant les ressources qu'il avait parce qu'il y avait déjà des systèmes à couper les têtes qui s'appelaient la manana ou genre de choses en Écosse au 15e siècle, genre de choses. Mais il n'a pas construit la machine. C'est plutôt Samson et j'ai oublié son nom, Antoine Louis. Et voilà. Donc,
qui ont été les constructeurs de la guillotine.
Les constructeurs, les développeurs, ils avaient lancé une espèce d'appel d'offres. Il y a un luthier qui avait répondu. Il y avait des gens, des facteurs d'orgue. Je crois que c'est un facteur d'orgue qui a gagné un peu le marché entre guillemets
de la guillotine. Il est passé de la musique à l'exécution capitale.
C'est des appareils en bois avec des manettes qu'on tire. Donc
c'est vrai, vu comme ça, effectivement.
et c'est tout. Et donc il n'a pas créé la guillotine. Mais les premières exécutions, de mémoire, c'était un gars qui s'appelait Pelletier, un tire-laine, comme on disait à l'époque. Les gens n'étaient pas contents, parce qu'à l'époque, les exécutions étaient un peu des spectacles.
Ouais,
et guillotiner quelqu'un, ça va très très vite.
On n'en a pas pour son lever tôt, son déplacement.
C'était un peu les jeux du cirque, mais c'était trop rapide et les gens n'étaient pas contents et ils voulaient récupérer leur échafaud, enfin leur vraie torture. Mmh. Et ça avait, on a un témoignage de Samson, le bourreau, comme quoi effectivement les gens chantaient en disant rendez-moi ma potence en bois, ce qui a traumatisé complètement Guillotin. Guillotin a très mal vécu que son nom soit attaché à ça. Il y a eu la Mirabelle, la Louison pour Mirabeau et Louis, et la guillotine, et c'est la guillotine qui restait. Et ça, il appelait ça la tâche indélébile sur sa vie. Donc, et il n'a pas été guillotiné, puisqu'on en reparlait il n'y a pas longtemps. Il est mort d'un anthrax.
Éric Grégoire, on parlait de votre arrivée dans le monde de la plume, et vous disiez mais moi je me vois pas écrire des romans policiers. On n'est pas non plus dans l'essai historique, dans la biographie, parce qu'il y a vraiment une partie romancée dans vos livres. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que vous êtes un peu un justicier littéraire?
Justicier, non, c'est un bien grand mot.
Super héros de la littérature du Nord.
Mais ça me désespère de voir des gens qui ont eu des comportements ou des actions dans le bon sens, on va dire. Sociale ou humaniste.
Comme Salengro, le docteur Salengro, Guillotin.
Et Guillotin, et qu'on a complètement oublié. Enfin, on a gardé, on connaît les noms, mais autant on se souvient, on connaît le nom de Gaulle, on se souvient ce qu'il a fait, autant Guillotin ou Salengro, on connaît leur nom, on ne sait plus ce qu'ils ont fait. Donc c'est un peu une façon de remettre au goût du jour.
Meurs vieux lâche, c'est le livre sur Roger Salengro. Le docteur Guillotin, un humaniste méconnu, c'est celui sur Joseph Guillotin. C'est aux éditions Book Edition.
C'est The Book Edition, pour Meurs vieux lâche et chez Regard pour Guillotin.
Et on peut vous retrouver au Marais du Livre à Hasbrouck, à la Forge à Marc-en-Barœul.
Oui, chez Martel à Amiens pour les plus loin. Voilà. Et à Malo, pardon.
Et à la librairie. Voilà, vous en attendez la dernière adresse.
Je vais me faire engueuler par le libraire.
Éric Grégoire, merci beaucoup d'être venu.
C'est moi, merci beaucoup.